14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre d'Emmanuel Pierrat, un personnage fascinant, avocat, écrivain, essayiste et collectionneur. Il publie un livre tous les trimestres à peu près. En ce moment, on trouve le passionnant 1857, La littérature en procès et Fou ballant, Trompe la mort chez Flammarion. Bonjour Emmanuel Pierrat.
Bonjour Nicolas Carreau.
Merci de nous accueillir à Babylone, parce que là, on est vraiment dans votre antre. Vous postez quelques photos sur Instagram, donc je ne suis pas tout à fait surpris, mais je ne sais même pas par où commencer. Il y a des livres partout, évidemment. On a fait un peu le tour des pièces pour reconnaître les différentes positions des livres. Il y en a partout, partout. Et surtout, la pièce est remplie d'armes anciennes, de masques, de civilisations lointaines. Il y a même une armure de samouraï. Qu'est-ce que c'est ? Alors, devant vos bureaux. Alors, bon, on est dans le salon, double salon, avec des bibliothèques sur tous les murs, mais certaines sont un peu obstruées par des lances. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, elles sont obstruées par des lances, des casse-têtes, des massues d'Océanie, d'Afrique, de partout à peu près sur la planète. Et il y a double rayonnage de livres, donc il y a des livres qui sont très très loin et pas inatteignables, mais pour lesquels il faut faire quelques efforts, des livres qui se méritent.
Mais alors, ils sont classés comment ?
Ah, alors, il y a une grande bibliothèque interclassée, de A à Z, littérature, fiction, non-fiction, étrangers, français, livres de poche et livres à très cher, un mélange de tout. Tout ça est interclassé et après, il y a des bibliothèques spécialisées, histoire de la censure, érotisme, justice, mémoire d'avocat, drogue,
et deux, trois choses,
toutes mes marottes.
Parce que vous avez publié, vous, une bonne centaine de livres déjà,
un peu plus qu'une, 110, 120.
C'est un record, non ?
Non, le record reste à ma vivant, je pense qu'on est très peu. Il y a Johann Sfar qui a dû publier une centaine de livres. J'ai dit à Gérard de Cortance qu'il fallait qu'il fasse un effort parce qu'il était à 80. Et voilà, non, on est une poignée. On doit être 3 ou 4. Et j'ai proposé de faire un club des 100.
À 50 ans à peine en plus.
À 52 ans.
52 ans.
J'ai fait une fête pour mes 50 ans qui s'appelait 50 ans sans livre. Et j'ai triché parce qu'il y en avait déjà 108 ou 109.
Mais vous avez commencé quoi, à 20 ans les livres, ça en fait une moyenne de 3 ou 4 par an. Comment on fait pour écrire ? Parce que vous êtes avocat, par ailleurs, hein, quand même.
Toute la journée, oui. La journée, je plaide, je dirige un cabinet,
je sais que vous avez
avec
une astuce,
une équipe, et je dors très peu.
Voilà.
Je dors vraiment très peu. J'ai même écrit un livre sur mon rapport au sommeil, qui s'appelle « Troubler de l'éveil » chez Fayard, à la demande de mon éditrice, qui était étonnée par la rapidité avec laquelle je lui fournissais ma copie. Et elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Comment fais-tu ?» Je lui ai raconté, elle m'a dit « On fait un livre sur ça. » Un livre qui existe, par ailleurs, à la bibliothèque aux éditions des femmes, dans la bibliothèque des voix. Donc j'ai lu également en studio.
Mais quand vous dites très peu, je crois que c'est 3 heures par nuit.
Un peu moins de 3 heures.
Mais c'est un truc physique, vous n'avez pas besoin de dormir plus, c'est dangereux.
Je n'ai pas besoin de dormir plus, ça n'est pas dangereux. Mes parents étaient très inquiets quand j'étais petit, surtout que ça a commencé avec la lecture, pour faire simple. C'est mon premier souvenir d'éveil ou de nuit sans sommeil, c'est un souvenir de lecture. C'est quand j'apprends à lire à 6 ans et que je découvre ce qu'est enfin la littérature. La littérature pour les enfants de 6 ans, hein, vous tombez pas.
Ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas non plus dans une sorte d'insomnie, dans un brouillard où vous ne pouvez rien faire. Vous
écrivez, je travaille.
Vous êtes parfaitement éveillé.
Je n'ai qu'une seule interdiction, c'est je ne peux pas faire des sports ou des exercices physiques toute la nuit. Je dois rester à peu près calme et tranquille. Donc dans ma bibliothèque, c'est parfait. Je peux lire, je peux écrire, je lis beaucoup de journaux, je lis beaucoup de livres et j'en écris beaucoup. Voilà. Donc une activité plutôt paisible.
D'où ils viennent ? Parce que mon travail, normalement, c'est d'écrire par la voix, mais là, j'échoue parce que c'est vain. Il y en a partout, partout, des masques, des lances, je sais pas. Là, devant moi, il y a un mur qui doit faire 6 mètres de large et il y a, 50 lances qui donc cachent la bibliothèque. D'où ça vient ? C'est des voyages ? Vous les commandez ? Vous les collectionnez ?
Alors, j'ai même écrit 3 livres, je pense, sur l'art africain. Donc, j'ai écrit Les arts premiers pour les nuls. J'ai écrit un livre qui s'appelle Comprendre l'art africain aux chaînes. Et j'ai écrit l'année dernière, ou chez Gallimard, un essai sur la restitution des œuvres d'art à l'Afrique. Donc, je ne suis pas partisan. Je suis très prolixe. Et il y a globalement beaucoup de choses africaines, d'objets africains. Sur les 1000 et quelques que contiennent cet appartement, il y a peut-être 800 objets d'Afrique. Et puis, il y en a d'Océanie, d'Himalaya. Il y a beaucoup de l'archéologie. Il y a des choses de la reine de Saba, des choses très anciennes. Il y a des choses étrusques, romaines, grecques, égyptiennes, pharaoniques. Et j'en achète en salle des ventes, j'en chine, je travaille hors du coronavirus, je voyage. Quand nous ne sommes pas en pandémie, je prends beaucoup l'avion. J'ai un bilan carbone très mauvais, mais qui me permet malgré tout d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon, et de ramener dans mes bagages de mes dossiers quelques objets qui n'étaient pas nécessairement le but premier du voyage.
Et ce n'est pas un appartement gigantesque du tout. Ça fait 4-5 pièces.
C'est pas un petit appartement.
Là, on se dit
plus.
Qu'on ne peut pas en rajouter non plus.
On peut toujours en rajouter.
Parce qu'on est allé dans la chambre de vos enfants tout à l'heure, parce qu'il y a vos bibliothèques aussi dans leur chambre, faute de place, et notamment toute une bibliothèque sur les autopsies et la médecine légale dans la chambre de votre fille de 10 ans.
Oui, ben, il faut qu'elle apprenne tôt, qu'elle sache tôt ce qu'elle doit faire professionnellement ou qu'elle sache à peu près tout. Non, je pense qu'il n'y a rien d'immontrable aux enfants à condition d'expliquer.
Non, mais voilà, vous empiétez sur leur territoire quand même.
Ah oui, bien sûr.
C'est les livres d'abord.
Non, mais l'appartement, il y a quand même des plafonds assez hauts, des étagères assez hautes. Ça fait quasiment 3 mètres de hauteur. On est dans un appartement haussmannien. Mes filles de 10 ans, j'espère qu'elles ne montent pas à 3 mètres de hauteur pour aller chercher des livres. Sinon, j'aurais peur pour sa santé physique.
Et qu'elles tombent. Donc,
je peux utiliser les rayonnages qu'elle ne peut pas atteindre ou qu'elle pourrait atteindre avec beaucoup d'exercice et quelques risques.
Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de manuscrits encadrés, parce que vous collectionnez ça aussi, et notamment devant moi, je crois que c'est un manuscrit du Marquis de Sade.
C'est le règlement intérieur que le Marquis de Sade a écrit à Charenton, à l'asile, pour remplacer le règlement officiel. Monsieur de Coulmiers, qui était le directeur de l'asile, avait un règlement, évidemment, comme tout établissement pénitentiaire psychiatrique. Et Sade se plaignait parce qu'il avait du mal à écrire. Il disait qu'il était mal servi. Comme il était mal servi, il mangeait mal. Et comme il mangeait mal, ses pieds gonflaient. Et comme ses pieds gonflaient, il était obligé de les mettre dans une bassine. Et comme la bassine était contre le mur, il ne pouvait pas écrire parce que la position était inconfortable.
Donc il explique tout ça.
Ouais. Et il explique pourquoi désormais on doit être servi par des gens de son rang. Il est marquis, donc il estime qu'il ne peut pas être servi par un demi-fou. Il dit « J'ai demandé à ma voisine, la comtesse, qui est enfermée et également internée, de me servir parce que c'est la seule qui sache le faire, sans faire gonfler mes pieds, etc. » Donc il explique toutes ces règles pour améliorer la littérature au sein de l'asile de Charenton.
Alors justement, on va commencer à comprendre pourquoi je disais qu'on était à Babylone. Parce que de Sade, on passe à votre bibliothèque de livres érotiques, parce que vous en êtes aussi un spécialiste. Vous êtes d'ailleurs membre du prix, j'ai oublié son nom.
Je suis président du prix Sade.
Du prix Sade.
Et j'ai enseigné la littérature érotique à l'Institut national de formation de la librairie, où j'enseignais le droit d'auteur, le droit du livre, le droit des libraires et en parallèle la littérature érotique.
Parce qu'on va y venir tout à l'heure, mais vous êtes aussi un spécialiste de la censure littéraire. Ça va avec, évidemment.
Ça va avec, évidemment. À l'origine, c'est la censure. C'est l'avocat que je suis, l'avocat lecteur, qui s'intéresse aux livres interdits. Aux livres interdits, on passe à l'histoire de la censure. Et l'histoire de la censure, on va vers les sciences, politique, les mœurs, les mauvaises mœurs, voilà, tous les sujets, la santé, tout ce qui peut être éventuellement l'objet de poursuite.
Les mœurs, c'est le livre interdit numéro un ou c'est d'abord la politique, par exemple ?
C'est un tiers de politique, un tiers de mœurs, un tiers de religion.
Ah oui, religion, voilà.
Et on va dire, c'est trois gros tiers, et peut-être que ça ne fait pas tout à fait 33% à chaque fois, et qu'il reste un petit pourcentage de choses diverses et variées sur d'autres sujets.
Bon, il y a beaucoup de choses, on va pas pouvoir tous en parler, mais il y en a un qui m'intrigue particulièrement, enfin plusieurs, c'est 7 tomes d'un livre avec une couverture, une reliure rouge, mais surtout dans une prison, dans une petite cage avec un petit cadenas, ils sont enfermés. Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une cage de livres interdits qu'avait édité Claude Chou, qui était un grand éditeur de livres érotiques du XXe siècle et qui a réédité des textes du XVIIIe, des romans libertins. Et comme il savait qu'il allait avoir des procès, tant qu'à faire, il l'a vendu à ses souscripteurs avec une cage et la possibilité donc de les rendre inaccessibles à sa progéniture. Ah. Quand on est un lecteur ou un bibliophile comme moi. Voilà. Donc on peut fermer cette cage et ne pas avoir de problème avec des enfants qui regarderaient les livres qui d'ailleurs ne mettent pas beaucoup le rose aux joues. Hein. C'est oui, ça, le canapé couleur de feu, on a connu plus érotisant aujourd'hui.
Bon, on a beaucoup de choses à faire, il faut qu'on avance parce que je voudrais quand même aller voir votre bibliothèque justement de livres censurés ou de livres qui parlent des livres censurés. C'est ici.
Alors, il y a des livres censurés, il y en a un peu partout, si je puis me permettre. Je vais vous montrer un livre censuré, parce qu'il y en a... Je suis désolé, je vais repartir ici. Après, on va venir là, mais je vais te montrer quelque chose. Des livres censurés, il y en a beaucoup dans cet appartement et qui sont classés avec les lettres de leurs auteurs. Ça, par exemple, c'est un samizdat, c'est-à-dire un livre clandestin russe de Bulgakov. Ah ouais. Qui s'appelle « Cœur de chien ». C'est le manuscrit, enfin le tapuscrit, il est dactylographié à la machine en russe et il est photographié en tout petit format pour être dans une boîte de photos souvenirs et dissimulé dans un appartement comme si c'était un objet inoffensif.
Ah oui, comme un jeu de cartes quoi. Mais c'est le vrai, enfin ça a circulé à l'époque celui-là.
Oui, c'est un livre de 1929 donc qui a circulé et puis que j'ai acheté il y a une vingtaine d'années ou 25 ans à la chute du mur ou à l'effondrement de l'URSS et qui a circulé et été beaucoup lu. C'est un des meilleurs romans de Bulgakov, l'auteur du Maître et Marguerite.
Vous ne lisez pas en russe quand même ?
Non, je ne lis pas en russe, ça c'est pour l'objet. Je lis en allemand, je lis en anglais, j'ai lu en japonais que j'ai appris mais que j'ai un peu perdu et je lis en hindi, en bengali.
Est-ce qu'il y a des livres illégaux ? Est-ce que si vous me dites là que vous avez tel livre, vous êtes passible de poursuite ?
Oui, il y a des livres illégaux,
par exemple. pas forcément ici, hein, mais...
Non, pas forcément ici. Merci de m'éviter une perquisition, Nicolas Caro. Donc, il y a la littérature écrite pamphlétaire ou antisémite qui a été écrite pendant la Seconde Guerre mondiale.
On n'a pas le droit de le détenir.
Si, vous pouvez le détenir, mais c'est pas non plus... En théorie, ils sont interdits de commerce, interdits à la revente. Il y a les manuscrits, enfin les pamphlets antisémites de Céline. Qui existe. En revanche, par exemple,
Bagatelle pour un massacre de Céline, parfois on tombe dessus chez un bouquiniste.
Chez un bouquiniste, mais pas, ça n'est pas réédité. Vous savez qu'il y avait le projet de les rééditer et puis que Gallimard qui a voulu les rééditer avec une édition scientifique irréprochable, parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé et d'expliquer, n'a pas pu le faire parce que la polémique a rendu inaudible ce projet, qui est nécessaire parce que ces livres tomberont dans le domaine public et donc ils ne pourront plus être. Ils sont déjà diffusés par l'extrême droite, donc il faut que les gens intelligents puissent les lire. En tout cas que ceux qui ne sont pas racistes, etc., puissent comprendre et expliquer ce qu'il s'est passé. Donc ce sont des livres qui sont interdits. Mais interdits surtout parce que Céline les avait fait retirer de la vente à la sortie de la guerre quand il était en prison au Danemark et qu'il espérait revenir. Il y a des livres ici, je dois avoir des livres du Hezbollah iranien, c'est-à-dire les extrémistes islamistes qui sont interdits. J'ai des livres en arabe, j'ai des livres politiques qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains, mais qui m'intéressent parce que c'est l'histoire du livre, de la censure et l'histoire des idées, y compris des idées nauséabondes.
Mais en vérité, on ne peut pas interdire un livre. Je veux dire, même tous les procès et tous les livres censurés dont vous avez parlé, y compris dans vos livres, aujourd'hui, on peut les lire sans problème. Évidemment, Flaubert, aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour le lire, alors qu'il a été soumis à la censure. Même le Marquis de Sade,
Marquis de Sade, tout est publié dans la Pléiade.
Oui, on y va tout. On est un peu prévenu, mais on a le droit de le lire.
Oui, on a le droit de le lire. Non, mais tout est accessible, d'une façon ou d'une autre. Donc l'interdiction d'un livre est une illusion. D'ailleurs, les grands censeurs... à chaque fois, ils ne se sont pas trompés. Ils ont brûlé un ou deux exemplaires pour la démonstration publique et ont gardé dans ce qu'on appelle des enfers des bibliothèques tous les livres qu'ils interdisaient pour pouvoir, un, les conserver à l'abri, qu'ils ne soient pas entachés, abîmés, et les consulter. Il y a dans les grandes bibliothèques célèbres interdites, de livres interdits, il y a la Leninka, par exemple, à Moscou, du nom de Lénine, qui a été ouverte pendant la première moitié du XXe siècle et qui était destinée à être... Ce sont des livres qu'on empruntait quand on partait, quand on appartenait à la nomenclatura et qu'on voulait aller en vacances au bord de la mer Noire et avoir des lectures qui faisaient frissonner. Alors là-dedans, on trouve de tout. La très bonne littérature russe clandestine, Solzhenitsyn, Mikhail Bulgakov, mais aussi un que sais-je sur le roman d'espionnage, par exemple. Donc la bibliothèque de la Vatican, au Vatican, c'est une bibliothèque extraordinaire de livres interdits, en grande partie.
Vous l'avez visité déjà ? À l'enfer des bibliothèques nationales,
oui. Moi, j'ai eu accès à beaucoup, à peu près tous les enfers, à l'enfer des bibliothèques nationales, qui n'existe plus comme pièce, mais il y a les numéros des livres, private case, à Londres, à la British Library. Je pense que j'ai écrit quelques livres sur la censure et sur les enfers des bibliothèques.
Et on dit mise à l'index, d'ailleurs, quand on parle d'un livre interdit. Pourquoi ?
C'est l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. Le premier catalogue de livres au monde qui a existé, la première fois qu'on a décidé de faire un catalogue de bibliothèques, c'est un catalogue de livres interdits. C'est Charles Quint. Je trouve formidable. Pardon, qu'on invente l'idée du catalogue de bibliothèques pour dire ces livres sont des livres qu'on ne peut pas lire.
Aujourd'hui, on fait les 1001 livres à avoir lu dans sa vie, des choses comme ça, c'est quand même mieux.
Mais les index sont en tant que tels, il y en a plein ici.
Vous en avez,
dans ma bibliothèque, bien sûr, j'ai tous les index, à peu près. Puisque l'index du Vatican, c'est quand même des gens qui ont les idées, qui ont une bibliothèque aussi importante qu'ils ont les idées étroites parfois. Enfin, c'est une opinion personnelle. Et donc, les index, c'est énorme.
Protégé par un bouclier qui vient d'où ?
Des Philippines, celui-ci, de Bornéo à côté, et puis un bouclier africain après. Mais... Il y a ici, c'est compliqué, pardon, parce qu'il y a des rayonnages et des rayonnages. Donc, Ici, il y a, ça c'est un volume de l'index, mais il y en a plein. L'index de Rome, alors 1500, 1593, 1596.
Et vous tapez tout ça, vous, pour vous.
Ce sont des livres, Nicolas Caro, extrêmement séditieux en tant que tels. Pourquoi ? Parce que le censeur, quand il fait un catalogue de livres érotiques interdits ou de livres dangereux, il recopie les titres. Et donc, sans s'en rendre compte, il écrit d'un seul coup dans l'enfer, le catalogue de l'enfer de la Bibliothèque nationale, à la lettre O, il y a orgie, orgie de petites cochonnes, orgie de... etc. Et ça devient en tant que tel un livre quasiment érotique. Et d'ailleurs, ces livres, ces index, voilà, ces index, il y avait une précaution, on a fini par s'apercevoir qu'eux-mêmes devenaient des livres érotiques, donc il est écrit au début à ne pas mettre entre toutes les mains, il faut une autorisation pour consulter la liste des livres qu'on ne peut pas consulter.
L'index est à l'index. Voilà.
Mais ça fait partie du jeu. Il y a dans ma cuisine, vous avez peut-être vu la couverture du manuel des confesseurs. Et donc tout ceci, ce sont des histoires de la censure, mais ce sont surtout des listes de livres interdits. En raison du sujet, il y a, alors il y a une bibliothèque, il y a des choses amusantes. Il y a la bibliothèque jaune, quelque part, qui est la bibliothèque des livres sur les cocus. Il y a les bibliothèques sur le caca, il y a les bibliothèques sur le libertinage, les bibliothèques de livres politiques, de livres scientifiques. Il y a.
Interdit.
Interdit. Il y a la grande littérature, hein, évidemment. Il y a Baudelaire, il y a Flaubert.
Vous avez un livre de Georges Arnaud qui s'appelle Mon procès.
Oui.
Georges Arnaud, qui est en fait Henri Girard, qui est connu pour avoir été accusé d'avoir tué son père, sa tante et la bonne dans un château du Périgord, où il était l'héritier de la famille. On l'a accusé de les avoir tués à coups de serpe. D'ailleurs, il y a un super beau livre de Philippe Jaénada
qui s'appelle La Serpe
et qui raconte cette histoire. Il a été acquitté grâce à un avocat que vous admirez beaucoup, Maurice Garçon, à la sortie de la guerre. Non, il était en 1943, quelque chose comme ça.
Pendant la guerre.
Et il est parti et il a écrit Le salaire de la peur. Il est devenu Georges Arnaud. Mais tout le monde a toujours pensé qu'il était coupable au fond.
Oui. Et c'est un livre qui raconte, qui essaie de. C'est une tentative d'auto-réhabilitation.
Et il aurait dit alors à je sais plus qui que oui, c'est bien lui qui les avait tués. Vous en pensez quoi, vous, de cette affaire ?
J'en pense qu'en pensait Maurice Garçon, c'est-à-dire qu'il est innocent. Ça, Garçon a réussi à le faire acquitter.
Tout pareil que les avocats, c'est la vérité judiciaire.
La
et c'est
vérité
tout.
Judiciaire. Ouais. Non, je ne suis pas le confesseur de Georges Arnaud, mais le fait qu'un écrivain ait raconté son propre procès et sa propre mise au pilori m'intéresse. Donc il y a ici dans cette bibliothèque des histoires de procès, mais uniquement là des procès d'écrivains. Dans une autre bibliothèque un peu plus loin, dans la chambre de mes filles, il y a les mémoires d'avocats et d'autres affaires judiciaires.
Il y a beaucoup de livres anciens aussi. Est-ce que vous attachez une importance particulière à l'objet livre et d'où ça vous vient ?
Je pense que je suis pas seulement bibliomane, bibliophage et bibliophile. Et j'aime beaucoup la forme des livres, j'aime beaucoup les objets, j'aime beaucoup le papier. J'ai appris ça, j'étais petit lecteur de manuscrits chez Arléa, maison d'édition, pendant mes études de droit notamment. Et Claude Pagano, qui dirigeait encore peu cette maison d'édition, est un grand bibliophile qui m'a appris ce qu'était un livre ancien, le papier, les grands papiers, les tirages, la reliure, l'art de la typographie, les petites marges, les grandes marges, voilà, tout le vocabulaire des typographes. Et ma grande fierté, ça a été quand je suis devenu avocat, d'avoir été très vite recruté comme avocat de l'Imprimerie nationale, qui fait le code typographique, qui fait la règle, entre guillemets, de ce qu'est l'imprimerie et l'art de l'imprimerie.
Oui, vous avez toujours réussi à lier finalement votre passion des livres et votre passion de.
Et là, donc, j'ai vendu beaucoup de livres anciens. Parce que quand on est collectionneur et qu'on achète et qu'on n'est pas né enfant de milliardaire, il faut financer ses achats. Donc j'ai vendu beaucoup, mais je garde des petits tas de petites choses, quelques livres anciens. Puis ça, c'est des petits hauts de Robert Morel, qui était un éditeur qui a publié plein de choses passionnantes, mais qui faisait par exemple les perles du libraire. Ce sont des petits feuillets comme ça, avec un anneau comme un porte-clés. Et sur chaque page, une
page toute ronde.
Voilà. Sur chaque page, une ânerie dite ou par un écrivain ou par un libraire
une citation.
Livre. Il y avait les perles des écrivains, les perles littéraires qui est ici que j'aime beaucoup. Il y a Oh, s'écria le muet, ça c'est chez Balzac. Il y a également dedans ce vers célèbre d'Alfred de Vigny justement qui dit il avait les mains froides comme celles d'un serpent. C'est quand même un très joli vers, quand on y pense anatomiquement. Et puis, il y a les célèbres formules d'Alexandre Dumas, qui écrivait très vite, parfois pas tout seul, mais beaucoup quand même, et qui dit, dans la main droite, il avait une corde, dans la main gauche, un sac, et dans la troisième, une épée.
Bon, on pourrait rester encore 2-3 jours pour visiter. parce qu'il y a des choses à voir, mais je veux pas avoir de regrets, donc je vous laisse là, Emmanuel Pira, et je vous remercie
beaucoup
de
votre visite, Nicolas, car on vous serait fouillé à la sortie, ça peut.
Ah bah bien sûr. Merci beaucoup, maître.
De retour en studio, et je rappelle le titre des derniers livres d'Emmanuel Pira, 1857, La littérature en procès, et Fou Ballant trompe la mort chez Flammarion. Et chez vous, Florence Omna, c'est rangé comment les livres ?
Alors ça, là, vous mettez le doigt sur une chose très importante pour moi, le rangement de ma bibliothèque. Alors je l'ai fait par thématique. Alors des thématiques, par exemple, les livres que je n'ai jamais réussi à lire. Alors en premier, il y a Au-dessous du volcan... Mais j'ai l'espoir.
De Malcolm Lowry.
Ulysse, exactement. Un peu les mêmes que tout le monde. Donc, il y a cette étagère-là qui est assez haut. Il y a ensuite les livres qui sont les livres cultes de mes amis. Donc, qui sont sur une étagère. Et qui sont on me les a offerts, vous savez.
C'est quoi ? C'est l'adversaire d'Emmanuel Carrère ?
Non, ça aurait pu être un des livres de culte pour moi. Mais non, c'est chaque...
Les gens qui ont un livre culte et ils vous l'offrent, vous en faut absolument lire ça. D'accord.
Exactement. Vous savez, assez souvent, et c'est assez agréable, des amis arrivent en disant « je viens de lire ça, lis-le d'urgence, etc. » Et donc, il y a cette étagère.
Ah, c'est pas mal, ça, de faire une place.
Ensuite,
pour ça.
Il y a l'étagère des livres dont j'ai toujours besoin. Donc, c'est des bouquins que je sors régulièrement. Alors là,
bricolage, cuisine ?
Non, c'est des livres, pas mal de livres de journalistes, genre Nick Cohn, vous voyez ce que c'est, qui a écrit un livre formidable sur Tritska, qui est... l'histoire de la musique à la Nouvelle-Orléans. Enfin,
et pourquoi vous avez besoin toujours de ce livre-là ?
Parce que j'aime revenir de temps en temps, j'en relis un passage, des livres où je reviens sans cesse.
D'accord.
Ensuite, il y a l'étagère des livres rouges.
C'est-à-dire ?
De couverture rouge.
Ah d'accord.
Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas le petit
pas
livre rouge.
C'est pas la collection
de Mao. Non. Et parce que je me souviens bien de la couleur, donc je sais que c'est un livre rouge, donc je les trouve facilement.
Il y a quoi là-dedans ? Il y a Suite impériale de Boris Stanelis ?
Non, il y a Knut Hamsun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a ce formidable livre de Thomas Garrett, La femme changée en renard. Il y a tout un tas de livres dont la couverture est rouge.
Et après, il y a les autres couleurs ou pas ?
Non.
Est-ce que vous avez une étagère avec vos livres ?
Non.
Non.
J'en ai une au journal où j'ai tous mes livres. Alors, je ne sais pas pourquoi, mes livres précédents étaient traduits en suédois. Et alors les Suédois doivent être très généreux parce qu'ils m'ont envoyé 30 livres traduits en suédois. Et donc quand on me demande lequel Wistram, qui est le livre précédent que j'avais écrit, je donne la version suédoise, il me semble que...
Tout le monde lit un peu de suédois,
tout le monde
de toute façon.
Ouais, le suédois, ça se pratique couramment maintenant.
On pourra venir visiter un jour ?
Ma bibliothèque, très volontiers.
Ah, génial.
Je l'aime beaucoup. Mon but, vous l'avez compris, était de m'y retrouver, en fait.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Florence Omna. Dans un instant, plein d'autres livres, il est l'heure des libraires. À tout de suite.